Maghrébine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Un sarcophage du 9e siècle, donc c'est des objets qui sont très rares, un sarcophage en bois qui a été conservé dans les sols très particuliers du site parce qu'on a ici une nappe phréatique qui permet justement la conservation des matières organiques et notamment du bois.
Nous sommes au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, devant l'élément central des collections que nous présente Guénolé Ridoux, l'un des médiateurs. Ce sarcophage a été retrouvé dans l'enceinte de l'ancienne abbaye fouillée pendant des années par l'archéologue Annie Bardel.
Donc c'est quelque chose d'assez rare et donc on l'a mis en valeur ici avec les photographies donc qui portent toutes sur cette période du 9e siècle avec deux photographies là, qui ont été créées spécialement pour l'exposition de Landévennec avec justement la question de la création du sarcophage et là la mise en bière avec une très belle mise en scène, Julien vous en parlera mais... Du coup, qui s'inspire justement de l'art de la fin du Moyen-Âge. Voilà. Et puis derrière, dans un lieu religieux qui est l'abbaye de Saint-Philbert de Grandlieu, en fait, enfin à côté de Nantes, qui date de la période carolingienne aussi. Donc là, des mises en scène de la vie de cour à la période carolingienne. Parce que l'une des questions qui se pose sur notre sarcophage, c'est à qui il appartenait, en fait. Ça reste une des grandes questions. Il est retrouvé dans l'entrée de l'église carolingienne, dans une chapelle qui a été construite spécialement pour lui. Et en fait, on pense que c'était quelqu'un de vraiment important à cette période-là, probablement quelqu'un qui était proche des cercles dirigeants de Bretagne, et donc peut-être de la cour de Nominoé, justement. La photo qui est représentée là-bas, c'est cette cour hein, du souverain breton, de l'envoyé de l'empereur, pour Nominoé plus précisément. Et puis pour l'explication autour du sarcophage, en fait, on a réutilisé des travaux des archéologues qui n'étaient pas montrés jusque-là dans l'exposition permanente. Il faut savoir que l'exposition elle avait été faite en 90, que les fouilles se sont poursuivies jusqu'en 2002, et donc évidemment, il y a des informations supplémentaires qui ont été trouvées par les archéologues entre-temps. Et donc là, notamment, c'est la question d'identifier un peu le personnage, des indices qui nous permettent de savoir de qui il pourrait s'agir, et puis aussi tous les travaux de prélèvement et d'analyse de la sépulture à l'intérieur du sarcophage, dont on ne parlait pas du tout avant, mais qui est intéressante parce qu'en fait, on sait que le sarcophage a été pillé, et donc il y a plusieurs indices comme ça qui permettent de retracer le pillage du sarcophage, même de savoir quand il a été pillé, et même peut-être par qui. Et donc du coup, on a présenté cette infographie là en réutilisant une photographie de Julien Daniello, et puis on présente aussi à travers un petit film cette découverte assez exceptionnelle.
Le photographe Julien Daniello s'est spécialisé dans la photographie historique. Il en a même fait un livre aux éditions Blanc et Noir, Chroniques de Bretagne.
Je me suis spécialisé dans le genre de la mise en scène historique depuis maintenant 4 ans. Et je suis parti sur un projet qui s'appelle Chronique de Bretagne et qui avait l'ambition, parce que voilà, fallait y croire en ce projet, de couvrir l'histoire de la Bretagne, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en 100 mises en scène. Sur un rythme de 25 ou 30 photos par an, voilà, on a réussi, puisque c'est vraiment un travail d'équipe au final, hein, on a réussi à produire cet ouvrage donc, qui a gardé le nom donc, Chronique de Bretagne, qui couvre donc toute l'histoire de la Bretagne et sur les 5 départements. 450 personnes ont participé au projet.
Oui, qui ?
C'est-à-dire donc, à peu près pour les deux tiers des associations de reconstitution historique, couvrant toutes les périodes. Des passionnés, donc parfois c'est des projets personnels, hein, ils ont leur propre costume aussi. Et lorsque je n'avais pas, et notamment au tout début du projet, parce que j'ai commencé avec rien, des fois j'avais pas de figurant et je sollicitais des entreprises ou des associations de théâtre qui disposaient donc des costumes de théâtre.
Mais revenons donc à notre sarcophage du 9e siècle, désormais cerné par 4 grandes photographies très colorées, très vivantes, avec des humains dessus. Il s'agit des membres de la troupe finistérienne de l'Etavia, comme Benjamin Francard, le président, qui nous explique comment il a reconstitué la tenue vestimentaire présumée de l'hôte du sarcophage.
En fait, on n'a pas, en dehors des choses funéraires, enfin en dehors de ses chaussures, de la notion qu'il y avait une trace de textile rouge, on n'a pas de trace de mobilier funéraire puisque la tombe a été pillée. Donc c'est essentiellement des éléments indirects qui ont pu permettre de déterminer, comme c'est expliqué ici dans le texte, hein, en fait, qu'en fonction des dérangements du squelette par les pilleurs, ils devaient porter tel type de bijoux, d'accessoires vestimentaires. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a été voir des sources contemporaines de bijoux, donc de boucles de ceinture, de jarretières, de fibules du 9e siècle, qui ont été retrouvées dans des contextes géographiques proches, hein, mais donc qui sont des objets essentiellement d'origine carolingienne, mais qui ont pu être retrouvés aussi dans les îles britanniques. Et donc on a fait réaliser du coup des reproductions de ces objets-là pour pouvoir proposer un visuel cohérent, à défaut d'avoir donc le matériel complet, comme on peut l'avoir dans certaines circonstances, avoir tout l'équipement de l'individu qui était inhumé. Et donc en l'occurrence, on retrouve au niveau de l'épaule une fibule, on a une bague aussi, une ceinture, des boucles de jarretière donc, qui permettent d'attacher les bandes moltières au niveau des jarrets, et donc les chaussures. Pour la peine, on a pu, grâce aux informations qu'on a eues avec Annie Bardel, parce que les chaussures malheureusement n'ont pas pu être préservées, mais elle avait un souvenir assez précis de ce à quoi elles ressemblaient. Donc on a pu faire réaliser donc, une reproduction de ces chausses funéraires, et qui sont là aussi été maintenues en fait, au niveau des chevilles, avec une paire de liens avec des boucles ornementées en fait.
L'une des photographies d'illustration particulièrement réussie est une mise au tombeau.
Et du coup, on s'est inspiré de la peinture et de la sculpture de l'époque moderne, donc 16e, 17e. En l'occurrence, pour celle-ci, on s'est inspiré de la mise au tombeau d'un groupe sculpté qui se trouve à Solesmes, dans la Sarthe. Et donc, le sculpteur, c'est Michel Colombe. Et donc, j'ai repris le positionnement des personnages, les deux fossoyeurs qui soulèvent le corps à l'aide du linceul. Et on a essayé d'être vraiment authentique dans les gestuels, puisque le personnage en prière à l'époque, hein, c'est les personnages en orant, c'est-à-dire qu'ils ont les mains levées. Et donc là, on a bien respecté. Hein, on n'aura jamais au 9e siècle des personnages avec les mains jointes. C'est plus tardif, on va dire. Donc autrement, voilà, c'est comme on vient de le dire, hein, je fais vraiment confiance pour le souci du détail concernant les costumes aux reconstituteurs. Hein.
Ça va être beaucoup basé sur les sources iconographiques du 9e siècle, hein, donc sur les enluminures carolingiennes, avec un petit peu de détails d'accessoires vestimentaires aussi qu'on va retrouver à droite à gauche. Hein, donc sur les détails. Là moi je vois juste parce que je suis sur la photo donc. Là par exemple la fibule que je porte c'est une reproduction d'une fibule pénannulaire qui a été trouvée au Cranoc de Llangorsé au Pays de Galles donc qui était un habitat aristocratique de la fin du 9e siècle qui a été détruit par les anglo-saxons et donc une fibule pénannulaire qu'on retrouve en contexte britannique que j'ai fait reproduire il y a quelques temps.
Les matières sont à peu près les bonnes matières, enfin les matières de l'époque.
Il y a beaucoup de soie en fait. Et souvent, la soie c'est vraiment un tissu extrêmement luxueux hein, pour l'époque et rare, et qui vient souvent de Constantinople, donc de Byzance, et qui est distribué en Europe, souvent en guise de cadeaux diplomatiques. Donc c'est vraiment l'élite qui dispose de ces types de costumes. Les couleurs insistent également sur ce côté luxueux. Du bleu, c'est très rare hein, à l'époque. Le rouge souligne quand même un caractère aristocratique. Voilà, autrement, on a de la laine, principalement. Voilà, plus il y a de couleurs, voilà, plus ça souligne.
Là, on voit un dégradé en fait, au niveau de la société avec les deux fossoyeurs donc, qui ont des tenues qui sont en lin ou en laine avec des couleurs, des teintes naturelles. Hein, donc, en fait, c'est les membres de la base de la société, donc des paysans ou des serviteurs. Et puis après, on a l'aristocratie avec, que ce soit les hommes ou les femmes, et puis donc un membre du clergé, là, on peut dire qu'il y a une tenue d'évêque, avec pareil, donc, des soirées, donc, et puis des tissus avec des couleurs assez riches, en effet, avec des teintes plutôt saturées, du rouge, du bleu assez foncé, même un peu de pourpre. Des tenues quand même qui en jettent.
Et le travail photographique, alors voilà. C'est quoi l'éclairage et puis après la retouche?
Alors, pour l'éclairage, on a fait cette photo dans le village de Pont-Croix, le village médiéval de Pont-Croix, et notamment dans la plus grande maison, la plus grande salle qui dispose de fenêtres absolument sur tout son pourtour. Donc du coup, on avait la possibilité de moduler la lumière comme on voulait, de travailler comme à l'ancienne, hein, avec un éclairage naturel au final. avec une source lumineuse donc, qui vient principalement sur le côté, en hauteur. Et c'est un peu... voilà, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de m'inspirer du travail des luministes, hein, ceux qui travaillent sur le clair-obscur au XVIIe siècle, avec Caravage notamment, et même voilà, tous ceux qui ont suivi sur ce travail du clair-obscur. Et moi, ça j'adore à chaque fois. Voilà.
Et après, vous faites une retouche couleur aussi ou...
Alors, j'ai ma technique qui va créer un effet de texturisation sur la photo, qui va insister sur le côté pictural. On va des fois croire que ces photos sont des peintures. En se rapprochant un peu plus, on voit que ce sont des photos. Mais voilà, il y a un traitement, une texturisation qui fait que voilà, j'essaie de donner ce côté peinture.
Mais est-ce que vous faites varier quand même les techniques selon les époques, hein, des photos prises des sujets?
C'est suivant, en fait, lorsqu'on est devant le fait accompli et qu'on découvre un peu l'ensemble, on a beau imaginer quelque chose, avoir quelque chose en tête, quand on est confronté devant la réalité, ben, on peut très bien changer au dernier moment. Finalement, vous allez vous disposer différemment, il faut s'adapter.
Et donc, combien de temps en tout pour réaliser cette photo entre la conception et puis la livraison?
Une moyenne, bah, suivant l'expérience que j'ai avec les autres photos, c'est à peu près 2 mois, généralement, entre l'idée qui émerge et la livraison de la photo en numérique. Voilà, il s'écoule une moyenne de 2 mois. Des fois, ça peut être beaucoup plus long. Là, en l'occurrence, on a fait la photo début avril. Et on y a vraiment réfléchi au mois de janvier. Hein. La peinture, la mise au tombeau, c'est un sujet qui a été traité des tas de fois. Je rassemble tous les exemples que j'ai pu trouver et puis on choisit celle qui correspond le mieux à la scénographie du musée, on va dire.
Touche dramatique dans la scénographie. Bon, ça va bien avec l'ensemble, avec ce sarcophage vide qui ne parle pas forcément, ça met de l'humain. Hein.
Gwendal Gloaguin, lui, a la double casquette de médiateur du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec et de membre de l'Etavia. D'autres photos illustrent les collections du musée de l'ancienne abbaye. Ce remodelage de la scénographie est né pendant le confinement, mis à profit par toute l'équipe du musée, dirigée par Bernard Hulin.
On a pu faire tout ce travail qui nécessitait plusieurs mois, parce qu'il y avait d'abord la réécriture des textes, d'une part les traductions, puisque c'est désormais proposé en anglais et en breton, et si j'insiste bien là, c'est pour aussi réinviter le public bretonnant à venir découvrir l'exposition permanente, puisque maintenant c'est présenté en breton. Et donc du coup il y avait tout ce travail sur les textes, il y avait le soclage, donc la réorganisation des vitrines qui a aussi demandé du temps, et puis ensuite bien le temps pour le travail de l'Etavia, la restitution, et puis de Julia Daniello, dont je dirais qu'on est content aussi d'avoir pu faire ça et de proposer, disons, un nouveau musée, même au public qui est déjà venu, ça va être autre chose.
Quelle est l'idée alors justement de mêler ces photos et même parfois de nouveaux objets?
Alors l'idée c'est vraiment de, je dirais, de faciliter l'accès à l'histoire, puisqu'on sait que ces objets... Certains sont remarquables, d'autres sont beaucoup plus modestes. C'est de permettre à travers la restitution que font les bénévoles de l'Etavia, c'est-à-dire s'attacher à reconstituer les costumes, les accessoires, et d'autre part à travers la photographie qui, à chaque fois, est une création. Et c'est une œuvre d'art en soi, parce que Julien Daniello fait référence à des œuvres du passé, et donc ça a aussi une qualité esthétique. Donc le pari, c'est qu'à travers ces photographies, on accède plus facilement à l'histoire qui est liée à ces objets présentés en vitrine. C'est donner du coup un visage à l'histoire.
Ici, c'est une photo prise dans l'abbatiale de Déas, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, donc en Loire-Atlantique. C'est l'un des très rares monuments qui subsistent à l'ouest qui date du 9e siècle, c'est-à-dire contemporain de la scène qu'on a voulu afficher, créer ici. Et donc il s'agit de la cour de Nominoé, qui est le premier souverain, on va dire, sans être roi proprement dit, premier souverain de Bretagne. Donc au 9e, c'est milieu du 9e siècle, et là on a essayé de représenter toute l'élite, la cour, on avait certains personnages. Bah, du coup, moi-même, je figure là, dans la scène. J'avais fait les réglages avant et puis j'avais demandé à quelqu'un d'appuyer juste sur le bouton. Et donc là, on a vraiment les brocarts de soie, les grandes tenues, les manteaux, les voiles, voilà, tout. On a un panel un peu de toute la société, hein, c'est veut dire aristocratique. On a les femmes, on a les membres de la famille proche du souverain, on a les ecclésiastiques, l'armée à côté. Derrière, on a une architecture carolingienne, hein, une alternance de tuffeaux et de briques. On est dans une abbatiale, mais nous, on a voulu faire croire que l'on était dans une aula, c'est-à-dire la salle du souverain, là où il officiait. Et donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc on a des personnages, voilà, pour d'autres, parce que le site a servi pour d'autres photos. Et donc on a voulu raconter d'autres histoires. Donc on a Salomon ici, qui sera un autre roi de Bretagne. On a, pour moi, c'était Nominoé. Espoé, pardon.
La baie de Redon, qui était un proche de Nominoé. Et après, ouais, et donc on a deux évêques qu'on n'a pas nommés, mais bon, pareil, des évêques de l'entourage du Missius, de Nominoé. Et après, en fait, sur l'interprétation, ce qu'on s'est basé, on a regardé pas mal de figurations dans des manuscrits carolingiens où il y a des figurations de cours impériales, hein, que ce soit la cour de Charles le Chauve ou que ce soit la cour de souverain biblique, où en fait on trouve souvent un peu le même type de représentation, c'est-à-dire qu'on va avoir le souverain qui va être assis, qui peut porter parfois des symboles du pouvoir. On va avoir un membre de sa cour qui porte souvent son épée qui est à sa proximité immédiate. Et puis après on va avoir les autres aristocrates avec des membres du clergé, des femmes de l'aristocratie aussi, et souvent on a quelques gardes à proximité aussi, donc on a repris un petit peu tous ces éléments-là pour les faire figurer là, dans cette représentation de la carolingienne du 9e siècle, qui est, à ma connaissance, inédite.
Même un magnifique dallage de l'ancienne abbaye est illustré de deux photos.
En fait, ici, on était donc sur la mise en scène du dallage que vous avez sur le sol. Quand on le regarde comme ça, en fait, on ne s'aperçoit pas à quel point c'est un objet qui est vraiment fou, en fait, hein, ce dallage qu'on a ici. D'abord, c'est très rare de trouver. C'est un dallage qui date du 10e siècle. C'est des choses qui sont assez rares. Et en plus, il a une histoire très particulière parce que, en fait, il est construit après le retour des moines, après leur exil à cause des Vikings en 913. Donc, en 913, les moines sont chassés de l'abbaye par les Vikings. Ils partent une vingtaine d'années en exil, et quand ils reviennent, en fait, ils vont rénover leurs bâtiments qui ont été brûlés, détruits par le passage des Vikings. Et dans les rénovations, c'est une rénovation qui est assez légère, hein, ils vont faire notamment ce dallage, qui est la plus grosse rénovation qu'ils fassent et qu'ils vont mettre dans le cœur de l'église carolingienne. Le dallage, pour l'anecdote, il est fabriqué avec des morceaux d'une villa gallo-romaine qui était juste à côté à Landévennec, en fait. Hein, cette terre cuite-là, ça vient de cette villa. Alors, pour parler de ce dallage, il ne s'agissait pas de reconstituer un dallage, vous imaginez. Voilà. Donc, on a plutôt parlé, évoqué justement le moment du passage des Vikings à Landévennec. Donc, à gauche, là, vous avez une photographie avec l'arrivée des Vikings à Landévennec. On est sur la pointe du Pal, là, qui est juste voilà, sur la côte, en face de l'ancienne abbaye. Et puis, de l'autre côté, vous avez le retour d'Alain Barbetorte. Alain Barbetorte, en fait, c'est le petit-fils d'Alain le Grand, le dernier roi de Bretagne. Et Alain Barbetorte, en fait, est parti en exil en Angleterre. Et en fait, il va revenir en 936 en Bretagne avec une armée soutenue par le roi d'Angleterre, justement. Et puis, il va, enfin, en tout cas, l'historiographie traditionnelle dit qu'il libère la Bretagne à ce moment-là. Ce qui est intéressant avec Alain Barbetorte, et c'est la raison pour laquelle on a voulu le représenter ici, c'est qu'en fait, dans les archives de l'abbaye de Landévennec, on a une charte, notamment, qui parle de l'implication de l'abbé de Landévennec, Jean de Landévennec, dans le retour d'Alain Barbetorte en Bretagne. Donc, en fait, les moines de Landévennec auraient joué un rôle important, justement, dans ce retour d'exil d'Alain Barbetorte. Et donc, du coup, c'était tout à fait valable de le mettre ici parce que Jean de Landévennec, notamment, son environnement, ça a dû être le dallage que vous avez là sous les yeux.
Pour la photo, ce sont des anonymes, hein, qu'on a voulu représenter. Donc, le retour d'une aristocratie, d'une élite, puisque c'est toute l'élite bretonne qui est partie en exil en Angleterre, hein, que ce soit les religieux et les nobles. Ce qu'on a voulu montrer, c'est, voilà, ce sont des combattants, mais c'est aussi le reste de la société, de l'aristocratie qui revient sur ces terres. également. Puis ce sont deux photos qui se veulent avant tout symboliques, hein, qui ont plus un côté artistique, hein, plus que narratif, puisque là on a Alain Barbetorte, voilà, qui revient sur cette terre après des années d'exil, pose le genou à terre. On est dans des références un peu cinématographiques là. Ça fait penser un peu à Christophe Colomb en 1492 qui pose le genou à terre sur la plage. On a un peu ça. Et puis, coup du hasard, coup du sort, on a ce fameux corbeau derrière qui était passé et qui est resté imprimé au bon endroit sur la photo, sur le capteur de l'appareil photo. Le corbeau qui est un peu une symbolique aussi pour les adversaires, on va dire, vikings, hein, c'est un messager, c'est le symbole, c'est un messager, je crois.
Les deux corbeaux d'Odin. Bon, là, ça va probablement être une corneille noire, donc il faudrait plutôt un corbus corax, mais bon... Je vais peut-être écorcher les noms, c'est Huginn et Muminn, qui sont les deux corbeaux, qui sont les messagers d'Odin, le roi des dieux, dans la mythologie scandinave. On a des sources de bannières scandinaves, en fait, qui figuraient justement un corbeau comme ça. Quoi.
Et de l'autre côté, c'est un peu pareil, hein. Forcément, ils étaient un peu plus nombreux que trois, nos vikings, mais on a voilà, quelque chose de... C'est assez symbolique là encore, hein. On les voit tout seuls sur ce sillon, hein. C'est-à-dire que la route est grande ouverte pour le passager viking à cette époque-là. Ils ont leurs armes et puis voilà, ils pointent du doigt l'endroit de l'abbaye.
On sait que le sillon a servi assez tard en fait, hein, de lieu de déchargement pour les moines, pour l'abbaye, même à la période moderne en fait. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'auparavant il n'a pas été utilisé comme ça. Il est quand même très pratique pour ça, quoi. Après, il ne faut pas le prendre en bateau du mauvais côté, parce qu'il y a toujours un risque d'envasement, mais c'est possible. Et donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait il y a deux types de photographies qui ont été présentées dans l'exposition. Il y a les photographies qui présentent vraiment les objets, qui sont faites avec des objets de Landévennec. Puis il y a celles qui sont en écho aux objets, et là en l'occurrence c'est plutôt ça, donc les Vikings et Alain Barbetorte en écho au dallage qui est derrière moi.
Et puis la refonte de la scénographie du musée a aussi permis d'exposer de nouveaux objets.
C'est un travail qui a été fait pour Landévennec spécialement. Parce qu'en fait, le site a été attaqué à plusieurs reprises, donc par les Vikings, on en parle souvent, mais aussi en fait pendant les guerres de 100 ans, et puis ensuite de nouveau au XIVe siècle, de nouveau au XVIe siècle. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est une vitrine justement consacrée à ces dernières attaques sur l'abbaye de Landévennec, avec des objets qui n'étaient pas présentés auparavant, parce que en fait, il fallait pouvoir les présenter convenablement, parce que chacun d'entre eux raconte une histoire. En fait, hein, c'est vraiment des objets qui sont très narratifs. Notamment, on a des fermoires de livres que vous avez au-dessus là, qui servaient justement à fermer des manuscrits et qui ont été retrouvés dans des couches archéologiques qui correspondent au nettoyage de l'abbaye à la fin du XVIe siècle, après sa destruction par les attaquants, enfin par différents camps d'ailleurs, des militaires, des soldats qui faisaient partie, enfin qui participaient aux guerres de la Ligue. Donc l'abbaye a été attaquée à ce moment-là. Et dans les archives, on nous explique que parmi les destructions qui sont commises contre l'abbaye, il y a le fait que les archives de l'abbaye sont prises, sont brûlées et sont jetées dans la cour et sous les pieds des chevaux des soldats. Et en fait, justement, bizarrement, les archéologues, à cette période-là, ils retrouvent plein de fermoirs de livres. Et donc, en fait, c'est vraiment le témoignage des archives. Là, c'est rigolo comme on peut avoir un écho entre ce que l'archéologie et puis ce que nous racontent les textes. Et en dessous, pareil, vous avez en fait des morceaux de plomb. Alors, c'est assez abstrait, mais donc c'est expliqué en dessous. Vous avez plein de petits dessins. Mais en fait, pareil, à la même période, les soldats, en fait, ils se déplaçaient avec leur moule pour fabriquer les balles de fusil. Et en fait, quand ils sont venus à Landévennec, sans doute ils se sont rendus compte qu'il y avait des ressources en plomb à prendre dans les vitraux de l'abbaye. Et ce que vous avez là, en fait, sur le côté, c'est les plombs des vitraux que les archéologues ont retrouvés en grande quantité, encore à la fin du XVIe siècle, sans doute trace d'une destruction des vitraux de l'abbaye pour récupérer le plomb. Et l'un des indications qui va confirmer cette hypothèse, c'est que, en fait, parmi ces vitraux, ces plombs de vitraux cassés là, vous avez aussi des plombs refondus, ce que vous avez au fond, l'espèce de disques, en fait c'est simplement du plomb qui a été mis dans un bol, mais voilà, rapidement, et qui a été rebrûlé pour faire comme ça une réserve de plomb, quoi, une sorte de petit lingot. Et autre indice qui est assez intéressant aussi, c'est juste devant, vous avez une petite balle avec son culot de plomb, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été coulée dans le moule. Ce que vous avez juste au-dessus, en fait, c'est le cône de coulée, c'est l'endroit où passait le métal en fusion, en fait. Et normalement, ça se retire simplement, une fois qu'on veut utiliser la balle. Et là, en fait, simplement, la balle est tombée quelque part après avoir été moulée. Et donc, ça, ils n'ont pas eu le temps de terminer de la préparer. Donc, vous avez cette balle en cours de préparation. Donc, tout ça, voilà. Ça raconte cette histoire du pillage à la fin du XVIe siècle. Donc, il y a un petit film qui raconte tout ça. Et puis, à côté, vous avez un arquebusier du XVIe siècle. Julien, vous en parlez, on peut quand même dire que c'est un très beau costume, hein. C'est vraiment des choses qui sont assez difficiles à faire. C'est pas une période facile à reconstituer, hein, ces périodes.
Il y a plein de sources, mais pour d'autres choses, notamment les costumes régionaux, les costumes du quotidien, notamment des paysans, là c'est moins facile. Autant on a beaucoup de sources, mais comme ces sources c'est des documents de l'aristocratie, bah, c'est des gens qui vont s'intéresser essentiellement à leur monde à eux, quoi, pas aux basses couches de la société.
On a quelques témoignages, hein, pour le XVIIIe siècle, pour le monde paysan, mais ça reste sommaire à chaque fois. On souligne les couleurs, le rouge, le bleu, souvent, et puis il n'y a pas plus que ça de détails, pas jusqu'au XVIIIe siècle, hein, pour le monde paysan.
Vous voyez, vous avez un très beau casque, vous avez une arquebuse, vous avez des armes. En termes d'équipement, c'est exigeant pour les reconstituteurs.
Réalisé à Notre-Dame de Cran, à Tréfléant, donc dans le Morbihan. Pourquoi on a choisi ? Parce qu'au niveau lumière, ça, c'était l'idéal. On avait un éclairage unique d'un côté, et puis à l'arrière, on a ces fresques qui datent exactement de 1594, donc tout à fait contemporain des faits évoqués avec le plomb, la fonte du plomb des vitraux de Landévennec.
Qui a fait le costume, tout ça ?
C'est moi, en grande partie. Mais après, là, c'est plus pour l'instant un projet personnel qu'un projet de l'Etavia.
Et donc, ça, ouais, par exemple, pour faire l'arquebuse, là, qu'est-ce que vous avez utilisé ?
Ah, pour l'arquebuse, c'est acheté à des artisans spécialisés. Ouais.
Avec le casque aussi,
oui. L'arquebuse avec quelques petites modifications pour bien la faire coller avec la fin du XVIe siècle. On a des formes qui évoluent assez vite, avec des petites caractéristiques qu'on ne retrouve pas plus tard, pas avant. Voilà.
Vous avez fait votre costume ?
En partie, oui. Sinon, c'est acheté, là encore, à des tailleurs spécialisés.
Venez redécouvrir le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, ses collections permanentes donc, mais aussi ses expositions temporaires, ses animations, son jardin et le site exceptionnel qui donne sur la rade de Brest. Et je vous rappelle que Julien Daniello est l'auteur d'un beau livre de photographie de reconstitution historique, Chronique de Bretagne, paru aux éditions Blanc et Noir.